I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, c'est la trêve tennistique. Je suis ravi de vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Deep Talk, émission dans laquelle je débat avec des acteurs de la discipline sur des thèmes d'actualité autour de notre sport. Vous pouvez écouter l'émission en intégralité sur toutes les plateformes de podcast et sur eurosport.fr. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Durant ces premières émissions de l'hiver, le premier thème abordé est « Peut-il y avoir du bon dans une année de confinement quand on n'est pas protégé par son classement ?» Alors, pour en parler avec nous, mon premier invité, Arthur Rinderknecht. Salut.
Salut Arnaud.
Salut Arthur. Écoute, merci en tout cas de te rendre dispo. Je sais que tu es à l'aéroport, hein, d'où ce masque. Ce n'est pas juste par mesure de sécurité, tu n'es pas chez toi.
On est bien d'accord. C'est ça. Pas trop le choix.
Ouais, tu sors du cours là, tu viens de jouer, tu viens de gagner. Sur quelle compétition, juste pour nous
Alors, c'était le challenge FFT organisé par la fédération pour un petit peu aider les joueurs qui ont été pénalisés par l'annulation des matchs par équipe Pro A et Pro B. Donc voilà, cette formule de compétition qui a été organisée par la Fédé pour aider financièrement les joueurs, une partie des joueurs du top 100 principalement, et joueuses évidemment, voilà, avoir un petit revenu et faire quelques matchs et voilà, pouvoir investir dans sa carrière.
D'accord, bon, une bonne initiative en tout cas de la Fédé.
Une très belle initiative.
Ouais, donc écoute, moi je suis ravi en tout cas de pouvoir échanger avec toi. On va te découvrir au fil justement de cet échange. Tu as un parcours, alors je ne sais pas si on peut dire différent, j'ai pas envie de dire atypique parce que finalement ce n'est pas atypique le terme, mais différent de ceux qu'on a l'habitude de voir peut-être aujourd'hui en France. Et c'est peut-être de tout ça, c'est par ça qu'on va commencer. Toi, tu es d'un environnement déjà très tennis. Hein. Ta maman jouait très bien au tennis, elle
était
française. Ton papa a bien joué au tennis.
Elle était moins 15 à l'ancien classement.
Donc, tu as tenu une raquette finalement entre les mains très très tôt, voire.
Ouais, j'ai commencé très très vite. Je devais avoir 4 ou 5 ans dans le club de Saint-Mandé. Dans le Val-de-Marne, où mon père voilà, gérait l'école de tennis, ma mère l'aidait un petit peu en donnant quelques cours, et voilà, je suis né avec une raquette dans la main, c'est vrai. Voilà, ma maman m'a appris mes premiers coups voilà, aux alentours de 4-5 ans. Maintenant, j'ai fait du foot aussi étant jeune, beaucoup de foot, et il a fallu que je choisisse à un moment donné. Et, bon, je pense que l'un et l'autre m'ont apporté des choses. Et puis bon, naturellement, comme tu l'as dit, voilà, je suis tombé dedans avec la famille, donc j'ai choisi le tennis sur mes 13-14 ans.
D'accord. Et donc, tu choisis le tennis sur les 13-14 ans, comme tu le dis, parce que tu es meilleur dans ce sport ou parce que tu le préfères ou justement par un peu la voie familiale?
Avec le recul, ouais, choix délicat. Il a été naturel à l'époque. Parce que, comme tu l'as dit, voilà, je suis tombé dedans, ma famille était dans le tennis, c'était naturel pour moi d'aller vers le tennis, mais je pense que je prenais au moins autant de plaisir à jouer au foot, et j'adorais ça. Je jouais bien au foot, donc j'étais au club de Vincennes, pour les connaisseurs, c'est le club formateur de Matuidi, donc une belle légende en France, ouais. Et on avait une très bonne équipe, on était champion d'Île-de-France régulièrement, et voilà. C'était sympa. J'ai passé de belles années de foot. Maintenant, j'ai choisi le tennis. Je ne le regrette pas. Ça m'a apporté tellement de choses que c'est top. C'est top.
Donc, tu choisis le tennis. Et donc, justement, parce que là, pour recontextualiser rapidement, aujourd'hui, tu es 165e mondial, hein, à l'ATP. On reviendra justement sur tout ça un peu plus tard, mais c'est juste pour ceux qui nous écoutent.
Bien sûr.
Donc, ensuite, derrière, tu prends quelle voie, juste pour nous expliquer. Donc, on sait qu'il y a la voie fédérale, on sait qu'il y a les ligues. Enfin, en tout cas, les gens savent qu'il y a des parcours un peu tout tracés. Toi, tu te situes où?
En fait, mes parents ont divorcé quand j'avais mes 13-14 ans. C'est là où je suis parti dans les Yvelines. J'ai quitté le Val-de-Marne, je suis parti dans les Yvelines. J'ai été licencié au TC des Loges de Saint-Germain-en-Laye. Et voilà, arrêté le foot à ce moment-là, concentré sur le tennis. Je suis rentré en sport-études. Et en fait, j'ai continué mon process avec la Ligue des Yvelines de tennis, avec deux, trois autres joueurs du même âge qui jouaient bien aussi, qui se débrouillaient bien en France. Maintenant, je n'ai jamais fait partie de Boulouris, de Poitiers, de tous ces...
Pas en Pôle France, tu étais entraîné de Ligue.
Voilà, j'étais entraîné de Ligue, mais jamais en Pôle France. Alors, j'avais fait un ou deux stages à Poitiers, trucs comme ça, mais je n'ai jamais vraiment... jamais vraiment fait partie, on va dire... d'un pôle qui est vraiment de la fédération. Évidemment, la Ligue est rattachée à la fédération, mais j'ai jamais été en pôle, non. Non, pas jusqu'à... Enfin, jamais été jusqu'à mes 18 ans. Jusqu'à mes 18 ans.
D'accord. Et très tôt, à quel moment, enfin, parce que c'est des questions qui m'intéressent, à quel moment tu décides ou tu sens que tu veux vraiment devenir joueur de tennis professionnel? Très tôt ou pas?
J'ai toujours eu ce petit rêve en moi. Maintenant, j'étais assez lucide sur la question. J'ai toujours été dans un lycée. J'avais des horaires aménagés, mais avec la Ligue des Yvelines. Mais j'étais toujours dans un lycée classique. On était trois joueurs plus moi dans une classe d'élèves lambda, totalement lambda, qui eux bénéficiaient en fait des mêmes horaires grâce à nos demandes à nous. Et donc, on a eu cette sociabilité avec les élèves normaux jusqu'à mes 18 ans. Donc, je faisais plus partie, on va dire, du monde réel des élèves qui étaient dans la réalité, plus que dans ce monde tennistique où beaucoup de jeunes à nos âges étaient déjà au CNED ou suivaient des cours par correspondance. Donc, j'ai plus suivi ce système-là.
Et donc, tu arrives au bac, on est d'accord, à 18 ans. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc, tu pars en université aux États-Unis, c'est ça? Et donc, avant tout ça, comment ça se passe? Comment tu prends cette décision? Pourquoi? C'est hyper intéressant.
Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je sais que ça concerne pas mal de jeunes à l'heure actuelle qui, pareil, sont tentés par les États-Unis, mais n'osent pas trop. Enfin, j'ai traversé ces questions aussi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à moins 4-6 l'année de ma terminale. En terminale S, donc pas évident, s'accrocher quand même au niveau études. J'étais pas dans les meilleurs français, je pense que j'étais plus aux alentours de 5-8e français, par là. J'avais fait quart de finale au championnat de France, donc j'étais pas dans les meilleurs et très conscient de ne pas l'être. Et donc je pense que mon niveau tennistique était pas assez bon pour aller sur le circuit. Alors j'avais mes rêves en tête et tout ça d'être joueur pro, mais j'étais conscient que j'étais pas prêt, mentalement, dans un premier temps mentalement, quand je vois tous les jeunes qui déjà étaient dans les pôles, s'entraîner comme des pros, jouer comme des pros, moi j'étais très loin de ça. Et en fait, c'est mes parents, surtout ma mère, qui connaissait une personne qui aidait les jeunes à partir aux États-Unis, mais qui était très indépendante, pas du tout connue dans ce monde-là. Et donc, on a discuté avec elle une première fois, deuxième fois. Et évidemment, moi, j'étais un peu réticent, un peu peur d'aller aux États-Unis, le langage, la barrière culturelle, tout ça, beaucoup de choses nouvelles. Mais mes parents étaient super motivés pour que je parte. Ils pensaient vraiment que c'était la meilleure chose à faire pour moi. Et en fait, je leur ai fait confiance et je me suis lancé dans l'aventure. Donc après, j'ai fait tout le process de recherche des États-Unis avec le bon coach, les bonnes bourses, le bon endroit, les bonnes équipes, les bonnes études, parce qu'évidemment, c'était important pour moi aussi d'avoir le bon choix d'études. Et tout en faisant ma dernière année de terminale et en essayant de jouer à fond comme je le faisais déjà depuis quelques années. Certes, avec un peu les moyens du bord, mais c'était quand même très bien organisé pour. Et je passe mon bac sur l'été 2013, si je ne me trompe pas. Je l'obtiens. Non, sans mal, mais je l'obtiens quand même. Et dans la foulée, je pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis en janvier 2014, si je ne me trompe pas. Et j'ai eu un petit souci, même en arrivant, parce que comme j'ai eu le bac de justesse, mon dossier scolaire a été refusé à arriver aux États-Unis. Donc, j'ai dû avoir une période de 6 mois où j'étais pas éligible. Donc, j'ai pas pu participer aux entraînements ni aux matchs officiels là-bas. Donc, c'était une période pas évidente pour moi.
Et donc, tu arrives aux États-Unis. Donc, c'est quelle université?
Je suis allé à Texas A&M University. dans le Texas, pas loin de Houston, à 1 heure au nord de Houston en voiture.
D'accord. Et donc, tu as dit que tu l'avais choisi, toi, en fonction justement du coach, j'imagine, qui opérait sur place.
Ouais. En fait, j'avais... voilà, on a fait tout le process d'échange, d'envoyer mon profil à pas mal d'universités. Évidemment, plutôt celles qui étaient bien classées, où voilà, le niveau tennistique était bon. Parce que j'avais quand même un niveau... J'étais monté à moins 15 entre-temps en septembre. Donc, j'avais quand même un bon niveau pour arriver aux États-Unis. Les meilleures universités, en gros, recherchent en général ce genre de niveau. Et donc, j'avais plutôt des contacts dans les meilleures universités du pays en termes de niveau. Après, j'ai fait le process, j'ai échangé avec des coachs, j'ai eu quelques calls en anglais, parfois assez drôle parce que mon niveau scolaire en anglais, c'était pas tip-top. J'ai essayé de comprendre, de me faire mon expérience, me renseigner à droite à gauche. Et en fait, j'ai fini à Texas A&M où le coach, c'est Steve Denton. Donc, tu dois peut-être connaître un petit peu de nom. Il a été joueur de Coupe Davis. Il a été 11e mondial en simple, 2e mondial en double. Je crois qu'il a fait finale à l'Open d'Australie en simple et finale en double à l'US Open. Un coach qui connaît vraiment bien le tennis, c'est ce que je recherchais, quelqu'un qui puisse vraiment continuer à m'apprendre le tennis et me faire progresser. Il avait un très grand gabarit aussi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que évidemment, il aura l'expérience de ce genre de profil comme le mien. Donc, ça a bien matché. Ils m'ont offert une bourse qui était très raisonnable. J'ai appris aussi que l'école était très très bonne, très très reconnue partout dans le monde. Donc, ça, c'était aussi un plus pour moi. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé, c'est que comme l'école est très reconnue, c'est pas forcément évident de l'intégrer. Et quand on a traduit en fait mes bulletins de lycée et du bac aux États-Unis avec la NCAA, qui est l'agence qui s'occupe en gros de tout le sport collège, comme ils disent, universitaire aux États-Unis. J'étais un petit peu en dessous de la limite, donc j'ai dû faire face à 6 mois pas de suspension parce que j'étais à nouveau en fait j'étais un élève classique. J'allais en cours mais pas de sport, donc d'accord. J'ai un peu laissé tomber la raquette pendant 6 mois.
De rattrapage en fait scolaire.
Voilà, mon profil scolaire n'était pas tout à fait assez bon, donc il fallait que je le mette à jour. Bon, alors que c'était évidemment plus ou moins des conneries. Parce que j'avais mon bac S et que là-bas, aux États-Unis, le niveau est quand même un petit peu moins fort, j'ai envie de dire, point de vue scolaire, qu'en France, en tout cas jusqu'au lycée. Donc, c'est juste que la traduction, c'était difficile. Ils n'ont pas la même méthode de traduction des notes. Ils notent sur 100. Si tu es en dessous de 60, tu fails, tu rates la classe. Sauf que moi, j'ai eu 11 sur 20 au bac. Et 11 sur 20, ça équivalait à 55 sur 100. Et donc, 55 sur 100, c'est en dessous de 60. J'étais pas dans la bonne case. Donc, ça a été comme ça. J'ai hésité au dernier moment à partir parce que je me suis dit que c'était quand même difficile pour moi d'arrêter le tennis pendant 6 mois. Quelques pleurs, quelques discussions avec mes parents, des proches, mais je me suis dit que de toute façon, c'est ce qu'il fallait que je fasse. C'était le mieux à faire pour moi.
Donc, t'arrêtes 6 mois. Tu joues pas pendant 6 mois. Tu fais juste, on est d'accord, tu vas juste en cours pendant 6 mois.
Je pouvais jouer tout seul. Donc, je prenais un partenaire de l'équipe. Je disais, allez, je sais que tu viens t'entraîner 2 heures, 3 heures.
D'accord, donc tu tapais la balle un petit peu quand même.
Okay. J'avais le droit de jouer, mais sans l'œil des coachs et pas sur les cours officiels de l'université. C'est des règles très strictes aux États-Unis. Ils sont réputés pour leur rigueur, d'accord. Mais fallait que je respecte ça.
C'est marrant quand tu me parles comme ça. J'entends, il y a quand même cette notion de double projet, hein, toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté quand même de garder toujours les études et de se dire au cas où il y a le matelas, si je ne réussis pas, dans l'un ou l'autre, finalement, je sais que je retomberai toujours sur mes pattes. Il y a un peu ça à chaque fois dans ton esprit ou pas?
Ouais, évidemment, c'est un peu une espèce de garantie ou d'assurance. J'ai envie de dire, on voit beaucoup de joueurs de tennis qui, malheureusement, moi, quand je vois leur profil, je me dis, ils auraient dû partir aux États-Unis, mais qui n'y vont pas, qui n'osent pas ou qui se lancent pas. Et puis, qui maintenant, à 23, 24 ans, 25 ans, qui jouent un peu au tennis, mais qui voudraient bien passer à autre chose, mais qui n'ont pas de diplôme ou alors ils ont eu à peine le bac et c'est difficile. C'est difficile, comme tu dis, de pouvoir retomber sur ses pattes et passer à autre chose. Là, je peux dormir un peu plus la conscience tranquille. J'ai je sais que j'ai mon diplôme. Je peux repartir aux États-Unis, je peux essayer de travailler en France, j'ai quand même un minimum. Et c'est ce que je recherchais, en fait, d'être plus dans la zénitude, de pouvoir jouer au tennis, voilà, plus zen, connaissant mon parcours et ayant ce diplôme. Mais comme tu viens de le dire, et pour rebondir là-dessus, aux États-Unis, c'est vraiment double projet, parce qu'en même temps, si tu suis pas le niveau point de vue scolaire, ils ne t'autorisent pas à jouer au tennis.
Ah d'accord, ok.
Et ça, c'est quand même un détail qu'on oublie peut-être un petit peu de temps en temps, c'est qu'il faut quand même assurer en classe. Alors, tout est mis à disposition, c'est des cours particuliers, des profs particuliers par l'université, payés par l'université, tout le domaine, le département athlétique. Mais si tu n'essayes vraiment pas et que tu ne passes pas ces classes, ils peuvent te remettre inéligible, comme moi, ce que j'ai eu là, mes premiers 6 mois. Et forcément, bah, là, c'est, en fait, ils te tiennent un petit peu par la corde en même temps, parce que, voilà, si tu fais pas le taf, point de vue scolaire, bah, ils t'interdisent de jouer.
Donc, tu fais combien d'années là-bas, pardon, exactement?
Je fais mes quatre ans, j'obtiens mon diplôme. J'obtiens mon diplôme à l'été 2018.
Tu fais 4 années, tu reviens plus que bilingue, avec ton diplôme, avec beaucoup de progrès aussi tennistique, et là, tu te lances sur le circuit. Tu reviens en France.
C'est ça.
Et tu décides de revenir en France. Alors la suite, c'est quoi? Comment elle se passe justement, ton retour en France?
La fédération m'a un peu suivi à distance, ou a dû voir que je me débrouillais pas mal là-bas. J'essayais toujours de faire un ou deux futurs l'été quand je rentrais, entre ces années-là. Et j'avais fait une finale en futur sur mon premier futur, donc ça prouve quand même que mon niveau évoluait et que je progressais. Donc je pense qu'ils avaient gardé un petit œil sur moi. Alors dans un premier temps, au cours de ma dernière année aux États-Unis, j'avais plutôt envie de me lancer, de jouer le circuit des États-Unis. J'avais plutôt envie de rester là-bas. Donc j'ai commencé un peu à étudier les différents cas de figure, mais c'était très difficile. Point de vue déjà visa, financièrement c'était vraiment très très cher, et tout ça. Et en fait j'ai eu la proposition de la fédération de venir intégrer le CNE. À partir de septembre 2018, j'étais rentré pendant l'été. Ils étaient intéressés par mon profil, et avec un autre Français, Florian Lacat, un bon ami, on a tous les deux intégré le CNE à cette période. Et je pense que c'était pas, je pouvais pas refuser une telle offre à ce moment donné. C'était top de leur part. Et je les remercie. Ils m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont permis de me lancer officiellement, professionnellement dans le circuit. Voilà, tout s'est super bien passé. Je suis rentré en France et c'était parti, quoi. J'ai attaqué en juin, juillet le circuit.
Donc, centre national d'entraînement, combien de temps tu y restes?
J'y reste un an et demi. J'y reste un an et demi jusqu'à décembre 2019. Là,
Ça se passe bien. Tu es plutôt satisfait?
Ça se passe très bien. Je suis évidemment très satisfait. Je progresse. Maintenant, quand je suis rentré aux États-Unis, j'étais 900, 1000, millième ATP, parce que j'avais fait un ou deux futurs l'été d'avant. Et en fait, en 2 mois, je suis monté 350.
D'accord.
Donc très rapidement, j'ai gagné 2 tours, j'ai gagné 2 futurs, j'ai fait quelques demi-finales. Enfin, ce qu'il faut pour monter 350. Et on attaquait en septembre. Et vraiment très bien, évidemment, très professionnel, les entraînements. Je m'entraînais maintenant comme un professionnel, on va dire. Et c'était un peu mon seul regret, c'est que j'ai pas eu la chance d'avoir beaucoup un coach qui a pu se déplacer avec moi sur les tournois. Et je pense que c'était ça qui m'a manqué un petit peu à un moment donné. Donc c'était un petit peu difficile. Je m'entraînais super bien, tennistiquement, physiquement, tout collé, tout était super. Mais c'est vrai que quand je partais en tournoi, j'avais pas forcément le coach avant les matchs ou après les matchs pour briefer, débriefer. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important dans le milieu. Et je me suis posé des questions à partir de septembre 2019. J'étais convaincu de rester pendant encore 6 mois, 1 an. Et puis finalement, décembre 2019, j'ai décidé d'un commun accord. Tout se passait très très bien. Je suis toujours en très très bon contact avec la Fédé. Et de prendre un peu mon envol tout seul et de chercher un coach qui sera plus spécifique pour moi et plus disponible pour voyager.
Donc là, tu trouves une nouvelle structure assez rapidement?
Une nouvelle structure, pas forcément, mais en fait, un nouveau coach, un très bon ami qui jouait le circuit déjà depuis quelques années, Manuel Guinard, le Breton, qui s'entraînait avec Sébastien Villette. Et puis, on était régulièrement en contact. Je les avais déjà vus faire un petit peu en tournoi, je les avais croisés. Je connaissais un petit peu Sébastien, mais pas tant que ça. Mais j'avais vu qu'il bossait bien, ça avait l'air sérieux, j'aimais bien ce qu'il faisait. Et en fait, naturellement, on était en contact. Et naturellement, Manu me l'a proposé. Il m'a dit, écoute, on cherche un peu un deuxième joueur pour partager un peu les frais pour moi. Ça m'allégerait un petit peu. C'est pas forcément évident. Et je lui ai dit, bah, moi, écoute, je vais partir. Je recherche quelque chose. Il m'a dit, bah, écoute, j'en discute un peu avec Sébastien. Je reviens vers toi. On est à Rennes, au club de Saint-Grégoire, en banlieue de Rennes. Voilà, si t'es prêt à venir, nous, on est prêt à te prendre. Puis Sébastien a été, voilà, intéressé par mon profil. Moi, évidemment, j'étais plus que partant et ça s'est fait très facilement début janvier. Où en fait on a, voilà, avec Manu on a partagé Sébastien et on partage toujours à l'heure actuelle et ça se passe très très bien.
On en arrive justement à cette année 2020 un peu bizarre, un peu troublée par ce Covid. Donc toi tu commences très bien l'année.
Je commence pas mal l'année, ouais. Je commence pas mal l'année, je peux pas me plaindre.
Non, des bons résultats en challenger. Ouais. Tu fais trois finales, dont deux victoires, hein, on est d'accord. Ton classement, bah, forcément,
mon classement grimpe.
Fait un bond, donc tu montes 160, là tu es 165e, je crois, mondial.
Ouais, j'ai dû être 155 au mieux, voilà. Je pense.
Donc bon, en tout cas, une grosse progression. Et tu es coupé dans ton élan. Comment tu le vis? Comment tu la vis cette année, là, globalement?
C'est assez délicat. Je reste un poil sur ma faim là, en fin d'année. Un poil sur ma faim en fin d'année, maintenant beaucoup de hauts et de bas, mais sur ma faim parce que bah, j'ai un classement qui est…
Tu as l'impression d'être coupé dans ton élan déjà sur le premier confinement? Est-ce que tu as l'impression de cette rupture?
Au moment où tout s'arrête, je me dis pas forcément ça, parce que je pensais pas déjà que ça allait durer des mois et des mois, comme tout le monde, je pense. Et maintenant, avec le recul, oui, ça m'a forcément coupé un petit peu dans la dynamique. Maintenant,
tu as été surpris de tes résultats déjà. Est-ce que toi… Alors, tu sais que tu travailles bien depuis longtemps, tu sais que tu progresses, tu sais que tu prends de l'épaisseur globalement. Est-ce que tu es surpris par ces résultats déjà?
Oui et non. Pourquoi? Je m'entraînais déjà bien depuis quelques mois. Je m'étais blessé sur mes derniers mois au CNE. Donc, j'avais eu 2 mois et demi d'arrêt. J'avais repris sur fin novembre, décembre. Je m'étais bien entraîné, ça collait pas mal. Et puis j'ai très bien bossé en début d'année avec Sébastien, voilà, d'avoir un nouveau discours, des nouvelles choses, on a bossé pas mal de trucs, c'était vraiment bien. Et en fait voilà, je débarque à Rennes, au Challenger de Rennes, et puis les choses se mettent en place match par match. Et en fait c'est surtout mon niveau qui a vraiment progressé. Et puis en fait, je me retrouve voilà à gagner le tournoi une semaine plus tard, alors que bah j'attaquais le tournoi, j'avais jamais fait mieux que un quart de finale en challenger et que j'étais 300e, et voilà, je gagne le tournoi. Donc assez inespéré, mais en même temps, comme me l'avait dit Seb avant le tournoi, l'objectif là, c'est de le gagner, le tournoi.
D'accord.
Ça peut paraître un petit peu présomptueux parce que bah, j'étais 300e, loin d'être tête de série, j'avais jamais fait voilà grand chose. Mais je l'ai gardé dans un coin de la tête et je me suis dit match après match, voilà, c'est mon objectif. Et voilà, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas moi, quoi.
Tu gagnes tes matchs.
Je prends confiance. Donc très difficile physiquement parce qu'on avait fait aussi demi-finale avec Manu en double et je devais enchaîner à Quimper. Donc j'arrive à Quimper un peu en catastrophe. Et puis bon, je fais un match et puis je dois abandonner au deuxième tour. Mais bon, la période continue, on se refait une ou deux semaines d'entraînement et puis on décide de partir aux États-Unis, au Canada pour une tournée. Et bon, je fais un mauvais match, j'arrive aux États-Unis, je perds au premier tour, j'étais pas dedans en termes d'attitude, j'avais pas fait ce qu'il fallait. J'étais bien repris par mon entraîneur et puis en fait les choses se sont mises dans le droit chemin sur le deuxième et troisième tournoi de la tournée au Canada, où j'ai réussi à faire finale et vainqueur. Et là, physiquement, j'avais passé un cap, je pense, parce que j'ai réussi à enchaîner et simple et double, parce qu'on avait gagné en double avec Manu. La deuxième semaine, et ça, c'était vraiment le point aussi très positif à ce moment-là. Et donc, on rentre en France et confinement.
Voilà, et donc confinement, donc tu te prends comme tout le monde, hein, tu te prends le Covid dans la tronche. Voilà. Et là, tu le vis comment, toi, justement, être éloigné un petit peu des cours psychologiquement, est-ce que tu l'acceptes en étant relativisant ou tu es un peu frustré?
J'accepte parce que bah, j'ai envie de dire, il y a beaucoup plus grave qu'une coupure dans le tennis, déjà, quand on voyait ce qui se passait dans le monde. J'accepte évidemment parce qu'à la base tu te dis que ça va être une petite période, ça va pas durer trop longtemps. Et bon, tu te rends compte assez vite que ça va finalement ça va durer. Et un petit peu sur ma faim évidemment, surtout quand tu as des bons résultats comme ça, tu as envie que d'une chose, c'est d'aller jouer le prochain match, d'aller jouer le prochain adversaire, de compete comme ils disent aux États-Unis, voilà, et de t'accrocher, ouais, et gagner d'autres matchs. Quand tu es sur une lancée comme ça, évidemment, c'est l'appétit vient en mangeant. Et en fait, j'avais très envie. Je devais jouer Lille et Saint-Brieuc en France, revenant en France. Donc, c'était comme ça.
Maintenant, c'est un petit peu coupé. Tu trouves le temps long, enfin, tu vois,
le temps était long. J'ai réussi à m'entraîner. On a rattaqué dès la fin du confinement. On a pu rattaquer et s'entraîner à Rennes avec Manuel, mon entraîneur. Mais ça a duré un mois et demi. Donc, un mois et demi d'entraînement sans jamais en fait savoir, sans avoir aucune échéance. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait même pas les calendriers. Il nous disait, l'ATP ou l'ITF me disait 2 semaines plus tard, et on s'entraînait comme des fous. Et en fait, ça n'arrivait jamais. Donc, à un moment donné, j'ai eu un peu de ras-le-bol. Ça a été difficile quelques semaines de suite. Finalement, bon, quand c'est reparti, l'excitation revient et cette envie de jouer revient. Maintenant, c'est sûr que ce n'était plus la même dynamique. Fallait relancer le truc. Maintenant, je travaille avec mon entraîneur pour essayer d'être le plus compétitif possible et progresser sur mon niveau de jeu pour me permettre de continuer à progresser.
Tu sais ce qui se passe un petit peu, la création donc, du PTPA par Djokovic et consorts.
Je suis pas très renseigné sur le sujet.
Tu ne te sens pas concerné par justement le fait d'être mieux représenté au sein de l'ATP, justement un joueur de ton classement, le but, si j'ai bien compris, c'est quand même une redistribution globale des enveloppes vers des joueurs peut-être un peu moins bien classés, donc hors top 100, si on devait le dire comme ça.
J'ai suivi de loin. Je pense que ça part d'une très bonne intention. C'est aider plus de joueurs et joueuses dans le monde du tennis à gagner leur vie convenablement.
Tu parles de la difficulté quand même de devoir joindre les deux bouts, essayer de tenir une année complète. On sait ce que ça peut coûter. Enfin, c'est voyager, c'est
payer son entraîneur. C'est sûr. Si on aborde le point de vue financier, c'est vraiment très difficile. Voilà, pour ceux qui sont vraiment dans le milieu, ils connaissent les chiffres. Pour ceux qui sont moins dans le milieu et qui ne se rendent pas vraiment compte, tant que tu n'es pas installé dans les 120, 100e, 100 premiers, c'est vraiment difficile de dégager un beau revenu et de vraiment bien gagner ta vie. Alors, tu t'en sors quand tu es jusqu'au 200, 250, mais c'est beaucoup d'investissement. Et en fait, tu n'as aucune certitude sur le retour. Et évidemment, je pense que pour revenir à la proposition de Djokovic, c'est une très bonne initiative. Aider plus de joueurs et joueuses à gagner leur vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui méritent de gagner leur vie plus facilement. Genre, pas plus facilement, mais plus convenablement en fonction des efforts qu'ils font. Parce que ça représente beaucoup de choses. On dit souvent, vous avez la belle vie, vous jouez au tennis. Ouais, c'est super. Mais maintenant, quand on connaît les petits détails du quotidien, c'est pas forcément évident. Voyager toutes les semaines, d'être loin de sa famille, ses amis, sa famille, sa copine, son copain, tout ça, c'est quand même beaucoup de sacrifices, en plus du point de vue financier. Donc, c'est une bonne intention. Je peux pas dire ce qu'il en est. Je suis pas trop renseigné. Évidemment, je pense qu'il faut tendre vers ce mode de fonctionnement, j'ai envie de dire, dans un futur proche.
T'as raison, je crois que c'est un peu l'objet, c'est vraiment d'aller vers ce nouveau modèle et surtout pas de penser que c'est juste les prize money des grands chelems qui doivent augmenter sur les premiers tours, mais c'est justement essayer de reverser un petit peu plus à plus de joueurs.
Ouais, je pense que le circuit, tout le circuit challenger mériterait un petit peu plus quand on voit le niveau qui est dans ces tournois. Que quand tu gagnes le double, tu gagnes à peine 1000 euros. C'est souvent rien que le prix du billet d'avion. C'est sûr que c'est pas évident, quoi.
Toi, bon, à travers ton parcours, tu es allé donc aux États-Unis, tu as étudié en parallèle, finalement jusqu'au bout, tu es diplômé. Tu es plutôt à l'aube de ta carrière, quand même, on peut le dire, finalement, même si t'as pas 18 ou 20 ans, mais tu es quand même à l'aube de ta carrière.
Non, c'est sûr.
Mais est-ce que tu as, enfin, dans un coin de ta tête aussi, ton après-carrière, est-ce que là-bas, on t'a préparé à ça ou pas du tout? Est-ce que toi, dans ton esprit, c'est je joue au tennis et je verrai après? Ou est-ce que tu, réfléchis un petit peu à tout, quoi qu'il arrive.
En ayant ce diplôme, ça m'assure, on va dire, ça me permet de, on va dire, plus facilement de trouver un boulot ou d'être un peu plus vendable sur le papier, sur mon CV. Maintenant, je sais qu'avec le diplôme que j'ai aux États-Unis, je suis assez, voilà, je suis assez confortablement, je peux trouver un boulot là-bas et
Donc c'est
c'est
quelque
un,
chose
c'est
qui
un...
te permet de jouer relâché aujourd'hui, tu penses, qui finalement te
Je
met
pense que
moins
ça m'aide.
de pression?
Ouais, je pense que ça m'aide de savoir que voilà, j'ai une garantie quoi, j'ai une assurance sur mon CV quoi. Et je sais que j'ai fait ces années d'études, je sais que j'ai appris des choses, que ce soit dans le monde du travail, on va dire, dans le monde du travail. J'ai quand même vécu pas mal de choses, les stress de contrôle jusqu'à mes 22 ans, les présentations orales, tout, voilà, tout ce qui va avec. Donc, je pense que ça m'a quand même préparé un peu plus au monde du travail. Voilà, moi, j'ai beaucoup, je me vois pas forcément travailler dans le tennis. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour ma pré-carrière tennistique, comme tu me le demandais, c'est de repartir aux États-Unis et entraîner en université. Parce que quand j'ai vu, voilà, quand je vois la vie qu'ont mes coachs en
Ouais.
université ou même les autres,
C'est pas
c'est
beaucoup
quand
plus.
même un truc qui est assez, c'est un truc qui est quand même assez incroyable, d'aller chercher ces joueurs aux quatre coins du monde, les recruter, avoir le feeling, ce feeling avec ce joueur, tu dis celui-là, je pense que je peux le faire progresser, je pense qu'il peut devenir un bon joueur, je pense que voilà, il va me gagner des matchs pour mon équipe et que voilà, c'est une bonne personne. Ça, c'est assez incroyable. Coacher en fait une équipe toute l'année, mais une équipe, mais des joueurs. Donc,
Ouais.
ils sont deux, trois coachs, ils sont deux, trois coachs pour une dizaine de joueurs. Mais manager tout ça, c'est plus un peu, en fait, ça rejoint le foot, en fait, pour moi. Quand tu es coach là-bas,
D'accord.
ça rejoint un peu, en université en tout cas, ça rejoint le foot, dans le sens où tu es un peu manager en même temps qu'être entraîneur. Et ça m'intéresse pas mal, le point de vue manager. Voilà, savoir gérer son équipe, évidemment, voilà, les problèmes que ça engendre d'avoir une équipe. Il y a des profils différents qui comprennent moins bien, mieux quand tu dois faire des choix et tout ça, quoi. Je trouve ça vraiment pas mal. Après, suivre ces joueurs sur le circuit, s'ils sont sur le circuit ou dans tout autre chose dans laquelle ils décident de se lancer. Mais voilà, garder ce contact et tout ça, je trouve vraiment ce boulot intéressant. Donc, j'ai ça dans un petit coin de ma tête. Maintenant, à voir si
Le plus tard
ça se
possible.
fait le plus tard possible. Le plus tard possible. À voir si
Mais
ça se fait.
on va revenir à toi, à ta carrière, pour finir
Ouais.
justement. 1m98, hein, on disait.
Ouais.
Donc, c'est quoi tes axes un petit peu de progrès? C'est quoi tes objectifs là, pour l'année qui vient? Comment tu vois un peu ton évolution?
Ouais, mes objectifs, on le dit souvent avec mon coach, je pense que c'est le niveau de jeu qui importe en premier. Donc, c'est vraiment progresser. Voilà, donc, je pense que point de vue physique, j'ai encore des progrès à faire. Comme tu dis, je suis assez grand. Donc, point de vue vivacité, rapidité, je peux faire des progrès. Donc, il y a pas mal de domaines. Évidemment, mon service, je peux toujours mieux servir. Je suis très loin de servir à la perfection. Donc, évidemment, je peux faire des progrès. J'ai voilà, un domaine, aller vers le filet. J'aime bien aller au filet, j'aime bien volleyer. J'aime beaucoup le double. Donc, tout ce domaine-là, essayer de bien l'optimiser et progresser. Et je pense que ça peut m'apporter beaucoup, beaucoup parce que quand on voit maintenant le niveau des gars du fond du court et ce qu'il faut faire pour les déborder et gagner des points, c'est quand même pas évident. Donc, vraiment cet esprit, voilà, d'aller à l'attaque, d'aller chercher les points. Et j'ai envie de dire, si mon niveau de jeu, voilà, progresse, les résultats viendront avec. C'est un peu cet esprit que j'ai. Cet esprit que j'ai compris en début d'année avec Sébastien, c'est voilà, faut faire ce qu'il faut bosser. Si tu bosses bien, tu as le niveau qui va progresser. Si le niveau progresse, ça viendra naturellement les résultats. C'est ce qui s'était passé. Et voilà, je compte continuer à faire ça.
D'accord.
Évidemment, avec des objectifs précis, au moment opportun.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? D'aller le plus haut possible,
Ah, écoute,
de pas de blessure, de continuer à jouer au tennis, de
ouais.
t'éclater.
Pas de blessure, de s'éclater, prendre du plaisir. Je pense que c'est le plus important. Voilà, de vivre, continuer à croire en son rêve et de vivre à fond le moment présent, voilà, avec beaucoup de plaisir. Et espérons-le, une meilleure année 2021 pour tout le monde, sans trop de soucis, sanitaires, en général. Mais voilà, merci à toi en tout cas pour ton invitation. C'était un
Avec
plaisir
plaisir.
de discuter avec toi.
J'étais ravi. Écoutons, ben on te souhaite tout ça. Merci mille fois. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Deep Talk. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter sur les plateformes de podcast. À la semaine prochaine. Salut.
Salut Arnaud.